Dieu de gloire, Père de gloire, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, veux-tous ce matin courber le genou devant toi. Et on veut te demander dans ce puissant et précieux nom de Jésus de venir nous parler. Viens faire œuvre dans nos cœurs ce matin par ta parole. Nous lisons dans les Écritures que c'est par la prédication que tu as choisi de sauver. Alors Seigneur, sauve encore ce matin. Seigneur, sanctifie-nous ce matin par ta parole. Jésus, toi qui disais au Père, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est la vérité. Je demande au Père en ton nom de répandre le Saint-Esprit sur nous ce matin. Saisis-nous de la vision de Dieu. Saisis-nous du règne du Seigneur qui vient. Ouvre nos yeux, nous qui sommes pécheurs, sur ta grandeur, sur ta majesté, sur ta sainteté, sur ta souveraineté. Ouvre nos yeux, parle à nos cœurs, nous qui avons tous mangé de ce fruit interdit, nous qui sommes tous devenus comme des dieux, incapables de te reconnaître réellement et par toute notre vie, comme le Seigneur, comme le Dieu des dieux, comme le Roi des rois. Nous qui marchons encore trop dans la confusion, parce que nous ne sommes pas saisis de cette vision céleste, parce que nous confessons encore trop de nos lèvres que tu es Dieu et Seigneur, sans le vivre, sans te connaître réellement. Nous qui avons encore une trop grande apparence de piété, mais qui renions encore trop ce qui en fait la force. Libère cette force de la piété en ce matin. Par ta parole, Père de gloire, parce que nous en avons besoin, d'un même cœur, nous te demandons, fais quelque chose ce matin. Parce que nous vivons ces temps sérieux, ces temps difficiles, ces temps terribles, et ces temps aussi extraordinaire, réveille-nous ce matin. Secoue-nous ton peuple pour que nous puissions lever nos têtes vers ton règne qui vient. Et que chacun de nous puisse faire de ton nom, de ta personne, le Seigneur de sa vie. En esprit et en vérité. Non pas en parole, mais comme le dit ton apôtre, avec action et avec vérité. Ainsi nous serons solidement prêts à te recevoir. Toi notre gloire, toi notre vie. Ton nom soit glorifié, Père. Amen. J'aimerais commencer par lire avec vous une parole du livre de l'Apocalypse, au chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Voilà que l'apôtre Jean, il regarde alors qu'il adore le Seigneur et qu'il prie. Et il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel. Et il est saisi par l'Esprit. Il est saisi par l'Esprit et voici qu'il voit un trône dans le ciel et sur ce trône dans le ciel, il y a quelqu'un qui est assis. Et celui qui est assis, il nous dit, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, des pierres précieuses. Par le langage humain, Jean, il ne peut pas dire ce qu'il voit, tellement c'est beau, tellement c'est glorieux. Tellement c'est magnifique, C'est la gloire de Dieu qu'il voit, la personne de Dieu dans son règne, dans son royaume, assise sur son trône. Et il ne peut pas nous l'expliquer. Et il dit qu'autour du trône, il voit 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes. Il nous dit que du trône, il sort des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, que devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il dit qu'il y avait encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Voyez, c'est un langage de la révélation. Ce n'est pas un langage humain. Il voit ces êtres qui représentent le peuple de Dieu, qui adorent le Seigneur. Les 4 êtres vivants, chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ont les yeux grands ouverts. Tout autour d'eux, ils ont des yeux, tout au-dedans, pour adorer le Seigneur. C'est une image qui devrait nous saisir de l'adoration qu'il y a dans le ciel. Il y a bien un royaume, il y a bien un règne de Dieu, il y a bien un trône, il y a bien un Dieu qui est assis dessus, bien-aimé. Et il y a bien des anges et des âmes qui l'adorent sans cesse, non pas qu'extérieurement, bien qu'extérieurement, mais intérieurement. Et comme nous le dit la parole, il ne cesse de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et quand les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. » Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Le titre de mon message ce matin, c'est « Qui est Seigneur de notre vie ?» Est-ce que ce Dieu assis sur son trône, est-ce que cet agneau comme immolé, comme on le lit un peu plus tard dans l'Apocalypse, est réellement le Seigneur de ta vie ? Est-ce que tes yeux extérieurs et intérieurs aussi, se sont ouverts à la réalité de Dieu, à la réalité de son royaume, à la réalité de son règne. Nous avons tous mangé, comme je l'ai prié, de cet arbre de la connaissance. Et en connaissant le bien et le mal, nous avons perdu la vision de Dieu. Nous avons perdu la connaissance de Dieu, du souverain bien. Et on est un peuple qui marche dans la confusion. Même sauvés et chrétiens, beaucoup de confusion demeure dans nos vies. Parce qu'on est victime encore de cette chute. On a le diable, comme on va le voir. On a notre chair, notre moi. Et on a ce monde qui nous mente et qui veut nous enlever la connaissance et la vision de Dieu. Le diable, nous-mêmes et le monde est sous une malédiction qui l'empêche de reconnaître et de connaître Dieu, ce pourquoi seuls nous sommes faits, pour l'adorer. On a été créé pour adorer Dieu. On a été créé pour rendre gloire à Dieu. Les créatures que nous sommes sont faites pour adorer leur Créateur. Mais à cause du péché, on a des forces en nous qui veulent nous mentir et nous brouiller, nous rendre obscurs cette vision. Et je prie que ce matin, Dieu puisse utiliser sa parole pour ouvrir nos yeux extérieurs et intérieurs et qu'ainsi nous puissions avoir une vie de véritable adoration, où on pourra dire peut-être par la bouche en chantant des chants, mais où Dieu pourra dire, en voyant nos vies, en regardant nos vies, que nous avons fait de Jésus le Seigneur et Messie de notre vie. On peut penser des choses, bien souvent, mais qu'est-ce que Dieu pense quand il nous regarde? Pas au culte ce matin, mais hier soir, pendant toute la semaine. Comme je le dis parfois, si Dieu maintenant mettait le film de notre vie projeté sur cet écran, qui sait qui resterait ici avec un cœur en paix et qui pourrait dire comme l'apôtre Paul, « Montrez-vous mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Je pense malheureusement que beaucoup d'entre nous aurions honte. On aurait hâte de fuir ou d'arrêter tout de suite cette vidéo. Eh bien, Dieu connaît toutes choses. C'est ce matin qu'il puisse mettre la lumière sur nos cœurs. J'aimerais vous lire une deuxième parole dans Matthieu chapitre 7 et le verset 21. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, dit Jésus. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement celui qui fait, qui met en pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous qui êtes sur la terre. Il dit, verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, cette parole terrible au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Moi, Jésus, fils bien-aimé du Père, qui fait un avec le Père, je ne t'ai jamais connu. T'as prophétisé, t'as chassé des démons, t'as guéri des malades. Et je crois à toutes ces choses. Bien sûr, bien-aimé. Mais des gens qui peuvent faire ça, Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous avez dit avec la bouche qu'il était Seigneur, mais votre vie ne l'a pas connu en tant que Seigneur. Et Dieu le Père ne vous a pas connu en tant que fils et fille, proclamant par leur vie en esprit, en vérité, qu'il est le Seigneur. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le péché, une marche tordue, tortueuse, en zigzag au lieu d'une marche qui confesse par sa vie qu'il est Seigneur et qu'ainsi qui marche droit. Alors vous connaissez ces paroles que je lis rapidement qui suivent. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a perdu le sens à cause du péché. Il a perdu l'intelligence, il a perdu le sens. Comme quoi Dieu est Dieu, il règne et notre vie est faite pour son règne et pour rien d'autre. Eh bien, cet insensé qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous savez, cette parole, on l'enseigne souvent en faisant des dessins aux enfants pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils bâtissent leur vie sur Jésus, sur le roc de la parole. Et ce n'est pas faux, mais cette parole, elle parle du retour du Seigneur. Elle parle de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur est venu comme le fils de Joseph. Il est venu comme un agneau pour verser son sang pour nous une première fois. mais il va revenir comme le fils de David pour juger la terre et pour juger tous ceux qui n'auront pas mis, entendu et mis en pratique sa parole pour être sauvés et pour vivre en enfant de lumière jusqu'à ce qu'il vienne. Et cette parole nous parle des jugements de Dieu qui vont s'abattre sur chacune de nos maisons personnelles, sur chacune de nos églises. Et le jugement commence par la maison de Dieu, dit l'apôtre Pierre. Alors il est bon de se juger soi-même, comme dit l'apôtre Paul, afin que nous ne soyons pas jugés. Ce n'est pas une parole de jugement que je veux donner ce matin, mais c'est une parole que ceux qui ont l'amour de la vérité sauront recevoir pour être de ceux qui tiendront sur le roc et qui pourront avoir leur confiance et même une pleine confiance dans l'avènement du Seigneur parce qu'ils sauront qu'ils font qu'un et qu'il est vraiment le Seigneur de leur vie. Par contre, si on dit avec la bouche qu'il est Seigneur et que ce n'est pas une réalité dans nos vies, eh bien, il est bon de descendre au-dedans de nous, comme disent les prophètes, comme Jésus le reprend dans la parabole de l'enfant prodigue. Il est descendu en lui-même pour considérer ses voies, pour mettre sa vie en lumière devant le Dieu qui, je le dis aujourd'hui, revient bientôt pour instaurer son règne, pour juger nos maisons. Vont-elles tenir ? Et alors, être enlevé à sa rencontre dans les airs pour régner avec lui sur cette terre ? Ou vont-elles être battues, comme on l'a entendu, et tomber ? J'aimerais vous lire encore une parole avant de rentrer dans le vif du sujet. Le psaume 96 nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Est-ce que ce matin, Dieu pourrait permettre, par le temps de prière que nous avons déjà eu, par sa parole, que chacun de nous puisse lui chanter un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur pour son nom. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes. Entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Et que nous puissions être comme ces cieux qui se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, ces cieux qui ont été, je dirais, violés par Satan, par la chute de Satan, cette terre qui a été violée par la chute de l'homme, qui est dans la corruption, séparée de Dieu. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. C'est toute la création, c'est ce ciel infesté de puissance maléfique, de domination, que les anges combattent. Il y a un combat sur la terre, il y a un combat dans le ciel. Eh bien, ces cieux et cette terre, la parole nous dit, qu'ils se réjouissent. Pourquoi ? Parce que l'Éternel vient, verset 13, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Vous voyez, bien-aimés, on a été créés. Dieu avait tout créé pour l'adorer. Quand on adore Dieu, j'aurais envie de dire quand on a cette grâce par le Saint-Esprit de sortir de nous-mêmes pour être en communion avec le Père, pour vraiment l'adorer au travers de Jésus et par son Saint-Esprit, on peut dire « Je ne veux pas être ailleurs que dans ton temple ». Comme le dit David dans le psaume 27, il y a une seule chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. On sait qu'on est fait pour ça. On sait que c'est notre joie, notre vie. On est fait pour se réjouir devant sa face. On est fait pour se réjouir devant sa face. avant la chute de Satan. Quand l'homme était en Éden, avant sa propre chute, il y avait une harmonie parfaite. Il y avait la plénitude de la vie, la plénitude de la liberté. L'homme parlait avec Dieu. L'homme faisait qu'un avec son Dieu. Mais depuis la chute, qui a commencé par la chute de Satan, qui a amené le mensonge, Satan qui est venu parler à Ève, qui a entraîné avec elle son mari pour goûter de ce fruit, eh bien, il y a un combat qui s'est instauré. Un véritable combat. Nous qui étions faits pour la liberté, pour la gloire, eh bien, on est dans un monde déchu, on est dans un monde blessé par le péché, où il faut se battre. On n'était pas fait pour se battre. Mais à cause du péché, à cause de notre propre péché, de notre nature de péché qu'on a hérité d'Adam, notre père, eh bien, on est dans un vrai combat. Même la nature, regardez-la, elle s'entretue, elle se bat. Les animaux se dévorent entre eux. Les arbres portent du fruit, font de belles feuilles pour faner. Et quand bien même un arbre peut durer longtemps, il finira par mourir. La mort est entrée par le péché. Et on est dans un véritable combat. Alors, bien-aimés, j'aimerais nous rendre attentifs ce matin qu'il y a une malédiction. Il y a une malédiction sur chacune de nos vies. Il y a une malédiction sur cette terre. On peut le dire, on est maudit par le péché. On est blessé par le péché. Vous savez, dans la tradition hébraïque, cette chute de l'homme, eh bien, on appelle ça la brisure du monde. Et c'est quelque chose de terrible. De terrible. L'homme, avec toute la création, s'est séparé de Dieu. Il y a eu une brisure entre ce Dieu de gloire qui règne sur son trône et qui nous a créés pour lui, pour qu'on puisse l'adorer. Et ce monde dans lequel nous faisons partie, dans lequel nous sommes nés, eh bien, il y a une brisure, il y a une séparation. On est séparé de Dieu et ça, c'est quelque chose de terrible. Et vous savez, tout le cœur de Dieu, tout ce qu'on trouve dans les Écritures, n'a qu'un seul but, c'est la réconciliation. C'est de réconcilier l'homme, mais pas seulement l'homme, mais toute la création et tout l'univers avec lui-même. Tel que cela était au commencement. Le but de Dieu, c'est que nous puissions, à nouveau, nous qui avons été maudits, pourrait-on dire, par notre péché d'avoir mangé à cet arbre de la connaissance, et d'avoir ainsi perdu la vision de Dieu, la connaissance de Dieu, le but de Dieu, c'est que nous puissions retrouver la vision. Retrouver le fait de dire qu'il est Seigneur. Et que le diable ne soit pas Seigneur de nos vies. Que nous ne soyons pas Seigneur de nos vies. Que le monde ne soit pas le Seigneur de nos vies. Mais que Dieu et le Seigneur Jésus soient réellement les seuls seigneurs de nos vies, dès ici-bas et pour toujours. On l'a lu dans le psaume 96, que l'Éternel est grand, il est très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel seul a fait les cieux. Le but de Dieu, pourrait-on dire, c'est d'abattre toute idolâtrie dans nos vies. Et la première idole, c'est nous-mêmes, le monde, et cette voix de Satan, à laquelle on obéit encore parfois. Comme Ève a obéi, tentée qu'elle a été, pour manger ce fruit. Le but de Dieu, c'est qu'on arrête de manger de ce fruit de la connaissance. Même spirituellement, il y a des gens qui veulent vivre, qui veulent avoir un ministère ou même pas, ou servir le Seigneur en voulant connaître des choses, en voulant savoir des choses. Dieu veut nous dépouiller de nous-mêmes pour qu'on arrête, que ce soit par le péché, l'impureté, le dérèglement, le mensonge, de manger du fruit de l'arbre de ce monde, ou même que ce soit spirituellement, par du savoir ou que sais-je. Qu'on arrête de manger du fruit de cet arbre pour qu'on mange tout à nouveau du fruit de l'arbre de vie. qui nous donnera force à nos âmes, à notre esprit et même à notre corps, pour faire de Dieu le véritable Seigneur de nos vies. Vous savez, bien-aimés, je crois qu'on dit beaucoup trop légèrement Seigneur. Pourtant, c'est dans les 10 commandements, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et on entend des gens qui prient, des gens qui louent, des gens qui parlent en disant Seigneur à toutes les sauces. Mais vous savez, on doit considérer ce que ça veut dire Seigneur. Déjà, quand on dit Seigneur, on parle à quelqu'un qui est assis sur son trône et qui a fait les cieux. On parle à un sauveur qui accomplit de grandes choses, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On parle à quelqu'un et quand on dit Seigneur, ça veut dire je reconnais que tu es le Seigneur de ma vie. Tu as tous les droits sur ma vie. Je suis soumis à toi. Tu es mon seul berger. Demandez au travers de l'histoire à des esclaves ou même des serviteurs, lorsqu'ils appelaient leur maître ou leur roi, maître et seigneur, ils comprenaient ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, on comprend plus ce que ça veut dire. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on arrive à la fin des temps et le comble du péché est là. Et qu'est-ce que le cœur du péché ? Le péché, c'est moi. Le péché, c'est de, comme l'avait dit le Satan à Ève, vous serez comme des dieux. C'est de croire être comme des dieux, de suivre chacun sa propre voie, de croire qu'on sait, de vouloir ressentir nous, de ne pas arriver à se soumettre, à se libérer intérieurement. Le péché, c'est l'homme qui prend la place de Dieu, c'est l'homme qui devient Dieu, c'est l'homme qui croit pouvoir décider, pouvoir savoir. Et le comble du péché étant là de nos jours, le comble de l'orgueil de l'homme, le comble du moi de l'homme est tel qu'on est les personnes qui arrivent le moins à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de dire Seigneur. Alors on le dit en vain. On appelle Dieu notre Seigneur. On prêche même qu'il est le Seigneur sans vraiment comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'on est une génération dont je fais partie d'orgueilleux, rebelles à l'autorité. On est rempli d'égoïsme. Vous pouvez lire dans l'Épître à Timothée là, la description que fait Paul de notre génération. Et il avait prophétisé de manière parfaite. On est rebelle à nos parents. On méprise l'autorité. On veut marcher que par nous-mêmes. Et ainsi, on n'arrive pas à se rendre compte de ce que veut dire qu'il est le Seigneur. Vous voyez, le but de Dieu, c'est de nous connaître. Et que nous le connaissions, lui, le véritable Dieu, et son envoyé, Jésus-Christ. Et on a besoin de méditer sur ce que veut dire vraiment connaître Dieu, le faire Seigneur de nos vies. Alors ce matin, j'aimerais vous poser la question, est-ce que tu vis, non pas tu dis, mais est-ce que tu vis vraiment réconcilié avec Dieu ? Est-ce que tu dis qu'il est Seigneur, ou est-ce qu'il est vraiment devenu le Seigneur de ta vie ? Est-ce que vraiment tu as lâché les armes ? Tu as arrêté de vouloir te tenir par toi-même ? Même de faire des choses pour Dieu par toi-même ? Est-ce qu'il est vraiment devenu le Seigneur de ta vie ? Est-ce que tu t'es réellement vu comme une créature ? Et est-ce que tu l'as réellement vu comme le Créateur ? Vous savez, c'était ma prière au début de cette prédication, alors que l'on priait, « Seigneur, saisis-moi encore de ta vision. » On a besoin de la vision de ces chapitres 4 de l'Apocalypse que j'ai lu en introduction. On a besoin de la vision de Dieu, de son règne, de sa gloire, de sa personne. Et alors, on aura une vision de nous-mêmes un petit peu plus juste. On verra un petit peu plus juste et on verra qu'on est des créatures vendues au péché, influencées par le diable qui est le prince de ce monde, influencées par notre nature de péché qui est rebelle à Dieu, influencées par ce monde qui est voué à la destruction et non pas par le Seigneur lui-même. On a besoin de voir comme on est pour dire « Par moi-même, je peux rien, je suis rien, et il n'y a aucun sens à ma vie de continuer à me tenir ou de vivre par moi-même, parce que tout ça, le jugement de Dieu va le faire tomber. Il n'y a pas une seule idole qui tiendra, bien-aimé. Il n'y a pas une seule idole qui tiendra. Vous savez, j'aimerais vous dire que tu dises et que tu vives Jésus est Seigneur, eh bien, ça ne changera rien à sa seigneurie. Quoi qu'il en soit, quoi que tu penses, Jésus, il est Seigneur. Il est Seigneur. Notre frère, en introduction, nous a lu cette parole des Actes. Il a été fait Seigneur et Christ. Seigneur et Messie, c'est fait, il règne. Il a toute domination. Mais nous sommes encore libres de le choisir jusqu'à son retour, où il manifestera pleinement qu'il est Seigneur. Si tu rejettes Jésus, si tu ne veux pas croire qu'il est Seigneur, il reste Seigneur. Vous comprenez ? On ne peut pas échapper au fait que Jésus, il est le Seigneur de toute la terre. C'est lui qui a fait les cieux. C'est lui qui jugera toutes choses. Alors si tu le fais réellement Seigneur de ta vie, pour retrouver la juste vision et pas pour être dans l'iniquité, pour qu'il te connaisse et qu'il puisse te dire ouvertement, viens mon fils, viens ma fille, viens mon serviteur, toi qui m'as réellement appelé Seigneur et mon maître, viens dans cette maison que j'ai préparée pour toi, viens dans ce royaume. Que le Seigneur te dise ceci ou qu'il te dise, tu m'as pas fait Seigneur de ta vie, tu as voulu me rejeter, eh bien, ton âme sera séparée de lui, mais je dirais pas tout à fait séparée de lui. Tu seras séparée de son règne, de sa gloire, de ce pourquoi tu es fait te réjouir sans fin pour adorer ce Créateur. Et quiconque a reçu le vrai Jésus-Christ dans son cœur et est réellement baptisé du Saint-Esprit sait que son éternité est faite pour l'adorer et que sa vie trouve sens dans l'adoration. Et que ce sera bien sûr pas quelque chose d'embêtant. On a un jeune frère ici qui un jour a prié et a pu être saisi d'une vision à l'image de Jean, d'une vision céleste. Il s'est senti quitter son corps. Dieu l'a saisi et lui a montré quelque chose de son règne, de sa gloire. Et il voyait comment tout le monde l'adorait, l'adorait. Et il est venu le lendemain tout tremblant. Il me disait, quand je te parle, je suis poussé à m'agenouiller. Tu m'avais dit parfois, tu avais prêché que notre vie elle est faite pour dire saint, saint, saint. Tu es Seigneur, Dieu de l'univers. Et je me disais quand même, toute l'éternité, à dire saint, 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 tu es Seigneur. Mais il a dit, mais là, quand j'ai vu finalement cette description d'Apocalypse 4, quand j'ai vu ce trône, quand j'ai vu ces anges, quand j'ai vu cette gloire, mais mon Dieu, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, j'ai réalisé que tout ce que je pouvais désirer, c'était ne pas revenir ici-bas et adorer sans fin le Seigneur. On est fait pour l'adorer, bien-aimé. On est fait pour l'adorer et l'adorer et l'adorer et l'adorer. Mais si tu ne veux pas l'adorer, si tu veux rester ton idole et ne pas te laisser abattre pour que déjà soit rétabli ce qui va être rétabli au dernier jour. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire ? Dieu veut rétablir dans ta vie ce qui va rétablir au dernier jour. Dans cette tradition hébraïque, je disais, il y a cette notion de la brisure du monde avec le péché, le monde brisé, les hommes séparés de Dieu, et le Messie vient pour réparer cette brisure, pour le rétablissement de toute chose dont Dieu a parlé anciennement par ses prophètes, comme le dit Pierre dans les Actes des Apôtres. Et Dieu, au dernier jour, par son retour, il va rétablir toute chose avec lui. Toutes les idoles, elles vont tomber. Ce monde, il va tomber. Tout ce que l'homme aura pu construire par son orgueil va tomber. Et seul Dieu règnera et rétablira cette communion avec lui. Et tout ce que Dieu veut faire, c'est commencer par rétablir ça dans ta vie. Par le faire maintenant. Et si tu ne le fais pas, on dira je serai séparé de Dieu. Pas tout à fait. Tu seras le marchepied de ce Seigneur. En enfer, tu crieras, mais ne croyez pas que Dieu ne méprise plus l'enfer. Dieu règne sur l'enfer, bien-aimé. Soit tu pourras dans la gloire lui dire « Saint, Saint, Saint » et t'émerveiller et lui dire qu'il est Seigneur. Soit tu pourras lui dire dans l'enfer, lui-même éternel, dans cette géhenne, dans ces flammes éternelles, tout écrit, toute la torture de ton âme ne dira qu'une seule chose. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Et par ton jugement, toi qui n'auras pas voulu recevoir la parole de celui qui n'était pas venu pour te juger, mais pour te sauver, tu confesseras qu'il est Seigneur. Qu'on le veuille ou pas, Jésus est Seigneur. Que nous soyons vivants lors de son avènement ou que nous mourions, nous allons tous faire face au Seigneur. Et il vaut mieux qu'il nous connaisse avant qu'on lui fasse face. Il vaut mieux qu'on le connaisse pour qu'on n'entende pas ces paroles terribles qu'on a entendues tout à l'heure. Je vous dirai ouvertement, allez-vous-en. Comme ces vierges folles, elles ont tapé à la porte et la porte leur a été fermée au nez. Il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel pour voir, est-ce que tu vas voir ce matin ce règne de Dieu ? Et si tu vois le règne de Dieu, et c'est maintenant les trois points que je veux rapidement développer, si tu vois le règne de Dieu, tu vas voir le règne de Satan. Tu vas voir le règne de l'homme et tu vas voir le règne de ce monde. Et tu vas voir que c'est la malédiction, que c'est là quelque chose qui est voué à la destruction. Et la puissance de Dieu en toi, en Jésus-Christ, va te donner d'arracher toutes ces choses de ta vie, de les voir comme des vraies idoles et de les faire tomber. Quelles que soient ces idoles, bien-aimés, qu'elles tombent et qu'elles tombent tout de suite. On voit cette grande idole dans le livre de Daniel, fait de métaux précieux. Une petite pierre sans le secours d'aucune main, parce que c'est la main même de l'Éternel, a détruit cette statue en un instant. Quoi que soient les idoles de ta vie, aussi fortes soient-elles, Dieu va les détruire. Laisse-le les détruire maintenant. Laisse-le devenir le Seigneur de ta vie aujourd'hui, parce que demain, ce sera trop tard. Alors posons-nous la question, est-ce que le Seigneur est vraiment Seigneur de ma vie? Il est Seigneur, mais est-il le Seigneur de ma vie? Vous savez, l'apôtre Pierre, il dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Qu'est-ce qui a triomphé en toi? Qu'est-ce qui a triomphé en toi? Est-ce le Seigneur? Est-ce son règne? Est-ce ce pourquoi tu es fait? Ou est-ce que c'est encore le diable? Encore toi-même? Encore le monde? Avec tout ce que ça contient? Est-ce que tu te bats encore? Ou est-ce que tu as lâché prise? Est-ce que tu as cette vision de la restauration, du rétablissement des choses? Et il nous est, je crois, très cher de l'avoir aujourd'hui, bien-aimé. C'est une vision de base qu'on doit avoir. Et alors chaque matin, la même porte, elle est ouverte. Et on ne doit pas passer par une autre porte. Il y a bien d'autres portes qui s'ouvrent dans la vie, n'est-ce pas? Laquelle on va choisir? Vous voyez, je voudrais vous dire, est-ce que Jésus, il est vraiment passé comme le Seigneur de ta vie? Seul quelqu'un de, je dirais, de véritablement converti comprend ce que je veux dire. Est-ce que Jésus, il est passé comme Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il est réellement rentré dans ta vie pour te donner de vivre dans cette dimension véritablement chrétienne? Ou est-ce que tu restes finalement dans tes péchés en disant de ta bouche qu'il est Seigneur? Tu peux même faire des miracles, tu peux même guérir des malades. S'il l'appelle Seigneur, Seigneur, c'est bien qu'il croyait qu'il le connaissait, mais Jésus disait « Je ne t'ai pas connu ». Je ne veux pas choquer avec ce que je dis, mais comprenez sérieusement ce que je veux dire. La Bible, quand elle parle de connaître, ça veut dire un homme et une femme qui se connaissent, qui font un. Dieu, quand il te connaît, il veut réellement rentrer dans ta vie. L'alliance, elle se fait par le sang. Entre un homme et une femme, elle se fait par le sang de la même manière. Est-ce que tu as vraiment fait alliance avec Dieu? Ou est-ce que tu restes à dire qu'il est ton époux, que tu es l'épouse, l'Église est l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Mais vous vous êtes séparés. C'est un Seigneur extérieur. Vous ne vous êtes pas connus. Vous n'avez pas fait qu'un. Est-ce qu'il y a une vraie alliance entre toi et Dieu? Est-ce qu'il est vraiment rentré dans ta vie? Est-ce qu'il a pris le pas sur ta vie? Est-ce que tu as vraiment perdu ta vie pour la retrouver en Jésus? Est-ce que chaque jour, tu vis cette croix de Christ, avec passion, avec amour, parce que tu as compris et que tu sais qu'est-ce que ce règne, qu'est-ce que le but de ta vie. J'aimerais te dire, est-ce que tu es libre? Est-ce que tu te sens libre ce matin? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu es vraiment libre? Ou est-ce que tu es encore, même avec le Seigneur, ou bien sûr sans le Seigneur, confus, pas bien en toi? Si on est confus, C'est parce qu'on n'a pas la clarté de la vision de Dieu et qu'on fait encore par nous-mêmes, qu'on n'a pas lâché, qu'on n'a pas lâché. Tu veux te tenir tout seul ? Eh bien, tu ne tiendras pas devant Dieu. Il vaut mieux tomber maintenant que plus tard. Alors, j'aimerais maintenant dire qu'il y a trois choses, je les ai déjà un petit peu annoncées, qui faussent ce qui était au commencement, qui empêchent notre réconciliation, qui empêchent cette réparation, qui empêchent la volonté de Dieu de se faire dans nos vies. Ces trois choses, elles nous enchaînent au péché, elles nous font être aveugles, elles ne nous permettent pas d'avoir des yeux extérieurs et intérieurs pour adorer Dieu. Et ces trois choses, c'est le diable, c'est la chair, notre moi, et c'est le monde. Alors, rapidement, on va passer ces trois points pour conclure. Le diable, il est au départ de la chute, de cette terrible chute. C'est par la chute du diable que le diable est venu tenter l'homme et que l'homme a chuté à son tour. Et avec la chute de l'homme, le monde entier a chuté à son tour dans cette séparation d'avec Dieu. Dans un moi devenu esclave de lui-même. On est devenu nos seigneurs. On est devenu notre propre idole. Et une idole, elle nous cache Dieu et sa sainteté. On est devenu des hommes Dieu. Que vous en soyez conscient ou pas, Dieu, en tout cas lui, il voit clair. On se prend pour des dieux. On croit pouvoir mieux comprendre que lui. On croit pouvoir gérer notre propre vie sans Dieu. On se fait Dieu. Eh bien, ce diable, bien-aimé, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a tout simplement voulu être Seigneur. Il n'a pas voulu rester dans cette position de créature, bien qu'il était un ange glorieux devant le Créateur. Lucifer, ça veut dire l'ange de lumière. Il était rempli de la lumière de Dieu. Mais il a voulu s'élever. Il a voulu finalement être quelqu'un en dehors de Dieu. Et ça a été la chute instantanée. La séparation instantanée d'avec Dieu. Et quand le diable a tenté Ève, elle lui a dit, tu vas être comme des dieux. Tu connaîtras le bien et le mal. C'est la même chute qu'elle a eue. Elle a voulu être quelqu'un hors de Dieu. Et voyez que le péché est quelque chose de terrible. Par une seule pensée du diable, un tiers des anges est tombé. Par une seule pensée de l'homme, toute l'humanité est tombée dans le péché et séparée de ce Dieu de sainteté. Alors ô combien il est grave, il est profond de se poser sérieusement la question « Où c'est que je suis ce matin ?» C'est la première question que Dieu a posée à l'homme. « Où es-tu ? » ?»« Où es-tu ? » Et alors à Caïn, « Qu'as-tu fait ?» Où es-tu et qu'as-tu fait ? Ce diable bien-aimé, j'aimerais rapidement vous dire qu'il veut faire une seule chose. Il veut mettre les pensées qu'il a mis à Ève dans tes pensées. Il veut mettre les sentiments qu'il a mis dans le cœur d'Ève dans ton cœur. Il veut te tenter comme il a tenté. Ta mère dans la chair, on pourrait dire. Ton père dans la chair. Toi qui es encore un fils d'Adam. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Le diable, vous connaissez bien cette parole. Pierre nous dit au chapitre 5 de sa première lettre, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable, il n'a qu'une seule mission. C'est la mission inverse de celle de Dieu. On a dit Dieu, il veut te donner la grâce, la possibilité de redevenir le Seigneur de ta vie. Le diable, il veut que tu restes Seigneur de ta vie. Le diable, il veut t'empêcher de dire, non pas par tes lèvres, mais par ta vie, que Jésus est Seigneur. Il veut t'empêcher d'être vraiment réconcilié avec Dieu. Et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Médite sur cela. Malheur à vous, terre, dit l'Apocalypse, car le diable sait que ses jours sont comptés. Et tout ce qu'il veut, c'est amener le plus d'âmes dans son royaume qui ne sera plus son royaume, qui sera l'enfer, qui par ses souffrances reconnaîtra la seigneurie de Jésus. Et j'aimerais te dire que si le diable, eh bien, il a voulu dévorer Jésus, en voulant lui faire faire des miracles, en changer les pierres en pain, en lui promettant l'honneur, en lui promettant des possessions, bien des choses, ou en voulant lui faire faire des choses extraordinaires, est-ce qu'il ne va pas le faire pour toi ? Toi, chrétien, si le diable est venu tenter le Fils du Dieu vivant, est-ce qu'il ne va pas venir te tenter ? En voulant même avec l'esprit que tu as reçu, devenir quelqu'un, faire des choses pour être quelqu'un, bâtir un royaume, vouloir avoir un ministère, que sais-je, s'il l'a fait pour Jésus, ou faire des choses extraordinaires, vas-y, saute et je te reprendrai. Ô bien-aimé, il faut que l'on reste dans cette position de brisé, dans cette position de créature devant notre Créateur. Parce que sinon, si nous n'avons pas cette humilité de Jésus, nous allons tomber comme il n'est pas tombé. Mais surtout le diable, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il lui a dit, alors que Jésus avait été proclamé Fils de Dieu, lors de son baptême, la voix était venue du ciel et la colombe sur lui en disant qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu. Mais alors Jésus, au travers de ce temps qu'il a passé au désert, le diable venant lui parler et plus cette voix du ciel, il a montré par sa vie que c'était réel, qu'il était bien le Fils de Dieu. Et nous sommes dans ce désert, bien-aimés. Nous étions en Égypte, nous sommes sortis de cette terre d'esclavage et nous sommes dans le désert en attendant Josué. Si on devait traduire Jésus depuis l'hébreu, ça veut dire Josué, Yehoshua. On le traduit du grec Jésus, pour ça qu'on dit Jésus. On attend Josué, on attend Jésus qui va nous ouvrir le Jourdain pour qu'on rentre dans la terre promise, dans le royaume de Dieu. Donc on est dans ce désert. Alors on est sorti d'Égypte, son sang a été mis sur les linteaux de nos portes, on a été baptisé dans sa mort, on a passé la mer Rouge, on est des êtres nouveaux mais on vit dans le désert. Et ce désert, on peut le dire, c'est un test, c'est un combat. À cause du péché, c'est un test, c'est un combat. Va-t-on prouver par notre vie, comme Jésus a prouvé qu'il était le Fils de Dieu, que nous sommes les enfants du Père? Où allons-nous chuter? Et pendant ce temps, à ce même moment, quand le diable a vu que Jésus montrait par sa vie qu'il était le Fils de Dieu, il s'est retiré de lui en attendant un moment plus opportun pour venir. Et ce moment, c'était Gethsemane. Et le diable est venu comme jamais. Vous savez que Jésus a transpiré du sang. Si notre maître, il a transpiré du sang, il était dans une agonie de l'âme pour ne pas pécher, pour aller à la croix, pour aller au bout du salut. Nous qui sommes appelés à être à sa suite, est-ce qu'on est conscient de ce combat, de ce désert? Est-ce qu'on laboure dans la prière? Est-ce qu'on souffre? Oui, est-ce qu'on souffre avec Christ pour être glorifié avec lui? Le diable, il a voulu empêcher Jésus d'aller à la croix. Et c'est la même chose qu'il va faire avec toi. T'empêcher d'aller à la croix. T'empêcher de te dépouiller de toi-même. Vouloir te faire garder ta vie. Vous voyez, Luc 6, 46 dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Je crois que l'Église doit considérer, reconsidérer tout à nouveau, qu'est-ce que cela veut dire Seigneur. 2 Timothée 2, verset 19 nous dit ceci « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Le Seigneur connaît, on peut dire bien des choses, mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si tu prononces le nom du Seigneur, en restant dans l'iniquité, en restant dans le péché, en restant dans la confusion, et en n'ayant pas ses yeux clairement ouverts, au travers de cette porte, de ce règne de Dieu pour lequel tu es fait, eh bien, tu te trompes toi-même. Tu trompes ton propre cœur. Et tu prétends connaître le Seigneur, mais le Seigneur ne te connaît pas. Quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Alors, est-ce que ta vie, bien-aimée, chère âme, précieuse âme, est-ce que ta vie, elle appartient à Dieu? Si tu aurais encore honte ce matin, qu'on passe le film de ta vie, est-ce qu'au moins tu peux te lever et dire « Ma vie, elle appartient vraiment à Dieu. » Je ne lui dis pas « Seigneur » avec la bouche. Il est devenu le Seigneur de ma vie. Et ce n'est plus la voix du diable, ce loup, mais la voix du bon berger que j'entends. Il connaît ses brebis, elles lui appartiennent et elles entendent sa voix. Est-ce que tu entends la voix du bon berger? Est-ce que c'est la voix du bon berger qui guide ta vie? Ou est-ce que c'est encore celle du diable? L'apôtre Jean, il dit ceci, 1 Jean 3, 7, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. » Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Au commencement, on était dans cette harmonie avec Dieu. Dès le commencement, le diable, on pourrait dire, il a voulu prendre sa vie, il a voulu être quelqu'un, comme je l'ai expliqué. Dès le commencement, il a péché. Alors que personne ne te séduise. Si tu marches encore dans le péché, à vouloir être ta propre idole, tu es un enfant du diable. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu es réellement né de nouveau, tu ne pratiques pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Et il marche avec Dieu. Jésus est une semence en lui. Et cette semence, elle a pénétré son cœur. Elle a pénétré son être. Et elle grandit. Si tu grandis pas jour après jour, c'est la marque que ton salut, tu dois te poser des questions. Si un jour ça va bien, un jour ça va pas, c'est que peut-être cette semence de Dieu, elle n'est pas réellement rentrée dans ton cœur. Bien sûr qu'on aura des moments de difficulté. Bien sûr qu'on aura des moments de combat. Bien sûr. Mais la semence de Dieu, elle restera en nous. Et même elle utilisera tous ses combats, tous ses soucis pour grandir en nous. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire on reçoit tout. Mais si tu aimes vraiment Dieu, tout ce que tu vas vivre va t'aider à grandir. Et parfois la souffrance, les difficultés, les persécutions nous aident à grandir. Même si on ne le comprend pas tout de suite, après coup, on va voir la main de Dieu. Quand on plante une semence dans la terre, eh bien, il y a un arbre qui commence à grandir de plus en plus. Est-ce que la semence de Dieu, elle est rentrée dans ta vie? Est-ce que tu as une croissance spirituelle? Est-ce que tu grandis de plus en plus? Ou est-ce qu'un jour, tu as proclamé avec la bouche que le Seigneur est Seigneur, mais que sa semence n'est pas réellement rentrée en toi? 1 Jean 5, 18 nous dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas !» Comme Jésus, le malin, il est venu, mais il n'a pas pu le toucher, bien-aimé. Il n'a pas pu le toucher parce que Jésus savait pourquoi il était sur la terre. Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur la terre? Tu es sur la terre pour faire la volonté du Père qui est dans les cieux et non pas la tienne. Comme l'a dit Jésus à Gethsemane, non pas ma volonté, mais la tienne. Et Jésus, il était clair. Est-ce que tu es clair de cette vision de Dieu? Ou est-ce que tu laisses la vision du monde te fermer les yeux et tu sais plus bien pourquoi tu vis? Sois clair pourquoi tu vis. Tu vis dans un désert et tu peux boire qu'à une seule source, c'est au rocher qui est Christ. Tu peux manger qu'un seul pain, c'est sa manne qui descend du ciel. Ta seule nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, parce que tu sais que tu es que de passage. Tes yeux se sont ouverts sur son règne. Et c'est seulement pour ça qu'on vit. Ces quelques années, c'est rien. Elles sont qu'un souffle. Elles sont comme un brin d'herbe qui un jour est ouvert et le vent et les passe et ensuite il se fane et il meurt. Comme je le disais à des jeunes il y a quelques jours, aujourd'hui, les jeunes, plus on est frimeur, plus on est une grande idole, on pourrait dire, plus on est quelqu'un, plus on est fou, parfois même plus on se drogue, plus on est violent, plus on se croit quelqu'un, plus on a l'impression qu'on a un trône. Mais il est temps de renverser ton trône maintenant, parce que la parole dit textuellement qu'il jettera, il abaissera les puissants de leur trône et il élèvera les humbles. Les trônes de cette terre sont moisis, sont faux. C'est du mensonge, c'est de la pourriture, c'est de l'illusion. Ah, on croit que c'est ceci, mais dès que la porte s'ouvre là dans le ciel, on voit que c'est que du fabriqué, c'est que superficiel, ça vaut rien. Il n'y a rien qui tiendra devant le Seigneur. Il n'y a rien qui tiendra. Alors est-ce qu'on sait, et que Dieu nous éclaire encore ce matin, pourquoi on vit ? On vit pour le règne de Dieu. Ou alors, comme Jésus le dit, soit tu es bouillant, soit tu es froid, mais si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Soit tu peux dire, moi je ne veux pas de Dieu, Écoutez, c'est terrible ce que je vais dire, c'est pas ce que je pense, mais c'est pour vous faire comprendre. Si tu veux pas ce matin ouvrir les yeux au royaume de Dieu, à la seigneurie de Dieu, pour qu'il vienne dans ta vie comme le Seigneur, eh bien il vaut mieux, comme le dit l'Ecclésiaste, que tu manges et que tu boives, parce que demain tu vas mourir. Un jour tu iras en enfer et tu brûleras. Alors vas-y, fais-toi plaisir. C'est ce qu'avait dit même Luther un jour à quelqu'un, ce grand réformateur. Quelqu'un qui avait de la peine à se convertir, il lui a dit, va en boîte de nuit, vas-y, drogue-toi, fais tout ce que tu veux. Et alors après, tu verras si ces choses, elles t'apportent réellement quelque chose, si c'est ça le sens de ta vie. Mais si tu ne choisis pas Dieu, tu choisis le diable. Il n'y a pas trois chemins, il n'y en a que deux. Et comme je l'avais prêché un jour, si on n'est pas clair, si on n'a pas choisi, c'est qu'on a déjà choisi. Si tu n'as pas choisi Dieu, même si tu dis, ah, je ne sais pas, pour Dieu, tu choisis le diable. Tu choisis toi-même et tu choisis le monde. C'est déjà fait ton choix. Alors que Dieu nous aide à le choisir ce matin. À nous rendre compte que comme Jésus, eh bien on sait pourquoi on est sur cette terre. Pour faire la volonté de Dieu, parce que c'est l'éternité. Et tout ce que tu peux chercher dans le péché, bien-aimé. Tout ce que, les sensations que peuvent t'apporter le péché. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit saura. Et j'ai connu le péché, bien-aimé. J'ai connu le péché. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je peux tout à fait percevoir que les passions qui étaient en moi, qui voulaient ressentir des choses, finalement, si je peux le dire comme ça, que ce soit par différentes passions mondaines et charnelles, on veut comme se faire du bien. On cherche ce sentiment de ah. Mais ça c'est la plénitude de Dieu. Ça c'est la plénitude de Dieu. On cherche simplement là où il ne faut pas et on est leurré. On est leurré. Comme lorsqu'on pêche et qu'on jette la canne à pêche et qu'il y a ce crochet avec un verre, vous voyez. Eh bien, au lieu d'aller peut-être dans un endroit où il y a quelqu'un de bon qui va nous donner, si nous étions des poissons, du pain, ou même des asticots qu'on puisse les manger, nous sommes de ceux qui vont commencer à croquer cet asticot au bout du fil de la canne à pêche. Et nous cherchons là où la vie n'est pas. Alors on croque un petit peu, on voit que c'est bon, alors on veut croquer plus, jusqu'au jour où on va croquer de pleine bouche et on va être pris. Et on va sortir de l'eau et on va aller droit en enfer, bien-aimé. Je ne vais pas vous faire peur, c'est simplement la vérité. Il y a seulement deux chemins. Il y en a un grand, tout le monde le prend. Et le cœur de Dieu saigne. Et Satan célèbre encore maintenant parce qu'il sait que toutes ses âmes, eh bien, elles seront dans la tourmente avec lui. Alors il est temps de choisir. Et si tu sais ce pourquoi tu es fait, le malin ne te touchera pas. Tu sais que tu étais fait pour la communion avec Dieu. Tu sais que tu es séparé d'avec Dieu. Tu sais alors que le diable, que ce monde, que toi-même, c'est du faux. Alors le malin, il ne te touchera pas. Et tu iras au bout, comme Jésus allait au bout. Tu mourras et tu retrouveras ta vie. Tu ressusciteras. Et quand il viendra dans sa gloire, tu paraîtras avec lui dans toute sa gloire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Le Fils de Dieu, il est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Est-ce qu'on est dans ce véritable, en son Fils Jésus-Christ? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. L'idole numéro 2 maintenant, c'est moi, c'est toi. C'est ma vie, c'est ce que je veux moi. Voilà la deuxième idole après le diable. Cette force intérieure en nous qui ne veut pas écouter Dieu, mais qui s'écoute soi-même. Ou qui doute de Dieu. Même que tu diras Dieu existe, mais si tu ne lui obéis pas, c'est comme quand tu dis faussement Seigneur. Non, si Dieu existe, il est Dieu, il est Seigneur. Alors soumettons-lui notre vie. Parce que c'est là la vie, c'est là la plénitude, c'est là la gloire. Ce moi, bien-aimé, c'est le moi de la chute. C'est le moi qui a amené tout ce monde dans la corruption. cause de notre péché, on a emmené toute cette terre, toute la création, dans la perdition. Et revenons à Jésus, eh bien on est ses fils de Dieu, et la création nous attend. La création attend la révélation des fils de Dieu. C'est ce moment de la résurrection de la chair, où elle-même, elle va être délivrée de la servitude. Toutes ces saisons, est-ce que vous ne les remarquez pas ? J'en faisais allusion tout à l'heure. Il y a du fruit, le fruit tombe, les feuilles tombent. Il n'en était pas ainsi en Éden. Il y avait tout le temps du fruit, en toute saison. Il n'y avait même pas de saison. 1 Pierre chapitre 4 nous dit ceci, bien-aimés. Ainsi, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Si Christ qui est venu pour nous montrer le chemin, il a souffert. Il aurait bien voulu, il aurait pu changer cette pierre en pain et la manger, n'est-ce pas ? Il aurait bien voulu déjà commencer à régner, mais il a choisi d'accepter de se faire cracher dessus, de se faire arracher la barbe, de ne pas manger sur la terre pour pouvoir manger le grand banquet céleste. Alors si Christ a souffert, arme-toi de cette même pensée. Tu es dans le désert, ta vie elle n'est pas faite pour ici-bas, elle est faite pour bientôt. Parce que bientôt, le Seigneur apparaîtra. Et là, tu pourras voir comme Jean et être dans cette réalité du royaume. Et tu mangeras le pain de Dieu, le banquet céleste. Comme lorsqu'on fait le repas du Seigneur, on lit cette parole, on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il vienne, et que Jésus dit, « Je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je le boive avec vous dans mon royaume. » Est-ce que tu veux voir le vin de la débauche, de cette Babylone, comme le dit la Bible, de ce monde ? Est-ce que tu veux boire ce vin-là ? Est-ce que tu veux te nourrir de ces passions-là ? Ou est-ce que tu veux te nourrir de la passion de Jésus ? La seule qui est éternelle et qui va pleinement nous combler. Alors armons-nous de cette même pensée, car il est dit, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Ça veut dire sur cette terre, dans ce corps-là, il y aura toujours un combat. Mais il a vu clair, c'est assez en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, dans les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En particulier les jeunes, vos copains, vos amis, ils trouveront étrange que vous suiviez Jésus-Christ, que vous arrêtiez de boire à la cigarette, au vin, que vous arrêtiez de boire à la sexualité, il faut oser parler de ces choses dont beaucoup de jeunes sont esclaves. Ils jugeront étrange que vous n'alliez pas vous précipiter, courir avec eux dans toutes ces passions, dans tout ce péché. Et même ils vont vous calomnier, et même ils vont rigoler de vous. Ah, regarde lui, le petit saint ou la petite sainte. Mais c'est ce qu'a vécu Jésus. Si tu ne veux pas le vivre, si tu veux rougir de Jésus sur cette terre, il te le dit dans Matthieu 10, « Celui qui rougira de moi, je rougirai de lui devant mon Père. » Et tu ferais mieux d'être maintenant saisi de la crainte de Dieu et de ne pas rougir devant ce Seigneur des Seigneurs, ce Roi des Rois. Et peu importe si tes copains, ils trouvent étrange que tu ne te précipites pas avec eux dans le péché. Peu importe s'ils se moquent de toi, sanctifie Jésus-Christ dans ton cœur, adore-le, utilise ça pour l'adorer encore plus. Alors tu vas avoir une communion avec lui, tu vas commencer à lui parler bien mieux, bien plus profondément que ce que tu lui parlais. Tu vas commencer à le sentir formé dans tes entrailles, ce Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de son Saint-Esprit. Et tu vas commencer à avoir aussi une compassion pour ces autres personnes, parce que tu vas commencer à voir ce jugement de Dieu qui vient. Ce jugement terrible. Alors tu vas devenir un Jésus, un sauveur. Tu seras poussé à l'intérieur, quand bien même on se moque de toi, quand bien même on te frappe, à témoigner de cette espérance qui est en toi, que cette vie, quel est le sens, si ce n'est en Dieu. Tu vas commencer à pouvoir être formé, sans avoir besoin d'avoir fait une école biblique ou même une école tout court, mais par le Saint-Esprit qui va t'habiter. Vous savez ce que la parole finit par dire ? Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ceux qui se moqueront, ceux qui vous calomnieront, ils rendront compte à celui qui est prêt. Aujourd'hui plus que jamais, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru à juger les vivants et les morts. Ceux qui sont à Jésus-Christ, dit Galates 5, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si nous disons qu'il est Seigneur, vivons la volonté de Dieu pour qu'il soit vraiment le Seigneur de notre vie. Crucifie ta chair, crucifie ses passions, bien-aimé. Qu'est-ce que tu vas te perdre dans ce monde? Et tu sais que quand tu pèches, eh bien le lendemain, cette sensation peut-être de pseudo-bonheur que tu avais, elle est passée. Alors ne te laisse pas être esclave de ta chair, ne laisse pas la chair être esclave de ta vie. Comme cette voix du diable, ne la laisse pas être Seigneur, mais fais vraiment de la voix de Dieu le Seigneur de ta vie. Ne laisse pas ta chair, ne laisse pas ton moi, ne laisse pas tes amis, ne laisse même pas tes parents, ta famille, ne laisse rien ni personne te séparer de cet amour de Dieu. Crucifie cette chair, maintenant, aujourd'hui, chaque jour, crucifie cette chair, déchire-la derrière toi. Tu es fait pour quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau. Tu es fait pour entrer dans cette porte et adorer Dieu éternellement. Alors ce péché qui te procure une joie immédiate, il te volerait ta vie éternelle. Ne laisse pas le diable, ni toi-même, te mentir. Laisse la parole de Dieu te dire la vérité et ouvrir tes yeux extérieurs et intérieurs. Si ce matin, aucun de nous pouvait se perdre, le Seigneur est proche, il revient bientôt. C'est le temps de savoir qui est Seigneur de ta vie. Ces paroles, elles peuvent te passer comme ça, comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Qu'est-ce que tu es en train de penser en ce moment? C'est par amour que je te crie ces choses. Qu'est-ce que tu es en train de penser? Réfléchis avant qu'il soit trop tard. Je te dis comme Jésus a dit. Comme Jésus a dit, les paroles là que je vous dis, c'est pas moi qui les dis de moi-même, c'est le Père. Un Père qui veut vous sauver, qui veut vous arracher à l'enfer. C'est le Père qui l'a dit. Et comme Jésus, je ne suis pas venu ce matin pour vous juger. Mais les paroles que je dis là ce matin, si tu es là ce matin, tu les auras entendues. Et si elles viennent bien de Dieu, c'est elles qui te jugeront au dernier jour. Quand tu paraîtras devant lui, est-ce qu'il ne pourra pas te dire, lui qui nous voit en ce moment même, je t'avais prévenu que tu n'es pas fait pour ce monde. Je t'avais invité à crucifier ta chair, à déchirer ton cœur, pour te faire comprendre que tu es fait pour des choses merveilleuses que Dieu a préparées pour toi. Tu as fait comme si tu n'avais pas entendu. Tu es libre. Maintenant, moi, ma parole, c'est que ta liberté ne t'amène pas à la mort. Ma prière, pardon. Tu es libre. Tu es absolument libre. Mais la liberté, bien-aimé, elle est très très dangereuse. Elle est dangereuse pour les rebelles, mais elle est une puissance de vie pour ceux qui se sauvent. Parce que moi je suis libre et j'ai choisi Jésus. Je sais si je veux, je peux aller pécher. Je suis tenté comme tout le monde. Mais Jésus est devenu mon Seigneur. Et justement parce que je pourrais aller pécher mais que je ne le fais pas, eh bien, je suis d'autant plus proche de mon Dieu. Autant plus un avec Dieu déjà. Ma prière, c'est que si ce matin tu n'entends pas la parole de Dieu parce que il y a quelque chose de trop dur en toi, c'est que ce soir, quand tu vas aller te coucher, le Saint-Esprit vienne pour te rappeler ces paroles. Et qu'un jour, et le plus rapidement possible, tu puisses dire, toi qui n'es pas chrétien, Seigneur, maintenant, je déchire ma vie, je te donne ma vie. Je ne vais laisser ni le diable, ni moi-même, Et on va terminer rapidement par le monde. Ni le monde me manger, mais prends-moi, Seigneur. Je veux t'appartenir. Je veux te connaître et faire ta volonté. Et même si j'ai des grandes tentations envers ce monde, eh bien Jésus, il est venu, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Et en lui, on a toute la puissance, bien-aimé. Que personne ne vous séduise, on l'a entendu. Que personne ne vous séduise. Si tu vas devant Dieu, si tu cherches sa face, sa puissance, tu verras qu'il est puissant, quoi que tu vives, pour détruire les œuvres du diable, pour crucifier ta chair et pour te donner la vie. Et te la donner jusqu'au bout, pour faire de toi un vainqueur. Pour faire de toi un vainqueur. Est-ce que tu es la fiancée du diable et de la chair, ou est-ce que tu es la fiancée de Dieu? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, chacun de nous. Je suis en train de parler de l'idole qu'est nous-mêmes. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé, comme le poisson qui va croquer, par sa propre convoitise. Tu convoites, tu désires, ce n'est pas Dieu qui te tente. Mais c'est plutôt Dieu qui te regarde, et peut-être Dieu qui te teste. Que personne dise « Ah, c'est de la faute à ceux... » C'est non, c'est de notre faute à nous. C'est nos passions, c'est notre nature de péché. C'est nous qui sommes tentés, c'est nous qui sommes séduits. C'est nous qui convoitons. Mais il y a toute la puissance en Jésus pour que ça soit crucifié. Voyez, Dieu, on l'a lu dans le psaume 96 tout à l'heure, il jugera le monde avec justice. Et il vaut mieux entendre ces paroles maintenant que de croire que Dieu... Des fois, on croit que Dieu, il nous comprend, vous savez. Parfois, oui, il nous comprend bien, mais ça ne marche pas avec le péché, ça. Le psalmiste, il dit... Dieu parle au travers du psalmiste en disant « Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais voici, je vais mettre tout devant tes yeux. » Des fois, on prend Dieu pour notre vision de notre propre Dieu, de comment on aimerait que Dieu soit. Dieu, il va juger le monde avec justice. Si tu pèches, c'est toi qui es le seul responsable. Tu vois, la liberté, c'est quelque chose de très sérieux. La liberté, elle t'amène à être responsable. Peu importe l'âge que tu as, si tu entends un petit peu ce que je dis, eh bien, tu es responsable de ta propre vie. Et cette parole, elle vient te dire, si tu pèches, c'est toi qui prends la responsabilité. C'est ni ton père, ni ta mère, ni tes copains. Tu n'auras plus personne quand tu paraîtras devant ce Seigneur. Tu l'auras fait Seigneur ou pas, tu verras qui sera Seigneur. Tu n'auras plus personne. Il n'y aura que toi. Qu'est-ce que moi, j'ai décidé de faire? Si tu es tenté par le péché, ne dis pas que c'est ceci, que c'est cela. C'est toi. C'est toi. Tu as la convoitise, et comme il le dit, la convoitise lorsqu'elle a conçu, comme un enfant qui vient à la vie, la convoitise, elle vient dans ton cœur. Lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, on le mange, il produit la mort. Dernier point, je le passerai rapidement parce qu'on en a parlé. Le monde. Jésus, il est déjà cette vie de la vie du monde à venir. Et si tu n'as pas cette vie en toi, si tu renies cette vie en toi, eh bien cette vie te reniera. Tu ne seras pas participant à cette gloire de Dieu. On a lu, bien-aimé, les paroles inspirées par le Saint-Esprit qu'on trouve dans les Écritures nous disent que le diable est le prince de ce monde. Il y a un prince. On pourrait dire qu'il y a un seigneur de ce monde. C'est le diable. C'est le diable. Et on a lu aussi le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, il est sous la puissance du malin. Le malin sait qu'il a perdu, que quand Jésus va revenir, il va manifester sa pleine gloire, sa pleine victoire. Mais aujourd'hui, à cause du péché, le monde entier, il est sous la puissance du malin. Alors aimes-tu ce monde? Qu'est-ce qui a triomphé en toi? La vie du monde à venir ou la vie du monde présent? Est-ce que tu l'aimes, ce monde? L'apôtre Jean, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si tu aimes le monde, vous savez, J'ai pas terminé tout à l'heure. Je disais aux non-chrétiens de pouvoir déposer leur vie pour appartenir vraiment à Jésus. Mais à nous chrétiens aussi. Si l'Esprit est notre vie, si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Marchons par l'Esprit. Et pareillement, est-ce qu'on a vraiment l'amour du Père dans nos cœurs, chrétiens que nous sommes? Ou est-ce que ce monde, il arrive encore à nous empêcher d'être pleinement libres, pleinement remplis du Saint-Esprit? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et bien sûr, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, vouloir avoir je ne sais quelle vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Comme cette maison, elle demeurera éternellement dans la main de Dieu. Si tu es chrétien, Dieu il t'a donné cette vie. Il t'a donné déjà les arts du royaume. Alors est-ce que tu les vis? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu grandis? Jacques, retenez Jacques 4:4, c'est facile, Jacques 4:4. Il dit adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Vous savez, souvent on parle de péché. On a fait ceci, on a fait cela. Mais Dieu avant tout. L'amour du Père, l'amour de ce royaume et de ce règne. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Si tu aimes le monde, c'est une marque que tu n'aimes pas Dieu. Nul ne servira de maître. Soit il aimera un, soit il haïra l'autre. Alors haïssons ce monde, bien-aimés. Haïssons cette chair. Aimons notre Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Si Dieu nous a épousés, si Dieu a fait alliance avec nous, cet Esprit qu'il a mis en nous, si nous l'avons reçu, eh bien Dieu en est jaloux. Est-ce que vous m'entendez bien? Dieu est jaloux de l'Esprit qu'il a mis en toi. Qu'est-ce que tu fais de cet Esprit Saint? Nul ne dit Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de cet Esprit Saint? Est-ce qu'il dit Seigneur réellement en toi? Ou est-ce que tu as reçu, tu as été visité par Dieu? Mais tu marches comme ci, comme ça. L'Écriture chérit. Dieu est jaloux de cet Esprit qu'il a mis en toi. Parce qu'il te veut à lui. Il te veut lui appartenir. Voilà, bien-aimé. Après tout ça, je termine en reposant la question. Qui est Seigneur de notre vie? Je rappelle qu'il y a un combat, c'est difficile, oui. C'est pour ça qu'il y a l'Église. C'est pour ça qu'on est appelé à être ensemble, à se tenir les mains ensemble. Vous pouvez lire toutes les lettres aux sept Églises, Apocalypse 2 et 3, à chaque fois, il finit par dire « Au vainqueur, au vainqueur ». Ô vainqueur, ô vainqueur, je donnerai de l'arbre de vie. Je lui donnerai un nom nouveau. Il sera une colonne dans le temple de mon Dieu. Il s'assiera sur le trône, comme moi-même je me suis assis sur le trône. Alors brise ton trône. Brise le trône dans ta vie pour être celui qui s'assoira sur le trône de Dieu, comme Jésus s'est assis sur le trône. Suis Jésus. Deviens comme Jésus. Embrasse cette croix. Et ne laisse pas le diable te faire perdre ta vie. Que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? À rien. À rien. Et tu pourras rien donner en échange de ton âme. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'on est appelé à se réveiller pour devenir des vainqueurs. Pour devenir des réels vainqueurs. Dieu nous a créés pour sa gloire, pour son adoration, pour la plénitude du bonheur. Nous avons chuté, nous avons péché, nous voyons plus clair. Que Dieu utilise ses paroles pour ouvrir nos yeux ce matin et pour qu'on puisse être réconciliés, revenir à ce qui était au commencement sans se laisser avoir par ce qui passera. La voix du diable, notre propre voix et celle du monde. Tout cela va passer, que l'amour du Père soit célébré et qu'on puisse lui dire, oui Seigneur, prends ma vie, prends réellement ma vie. En ce matin, en Jésus, vous avez tout, bien-aimé. En Jésus, vous avez tout, toute la plénitude pour vaincre. Il a traîné toutes ses dominations en cortège. Toutes les puissances de ténèbres, Jésus, il les a dépouillées, bien-aimé. Jésus, il a la puissance de dépouiller notre vie. En lui, on a toute la plénitude de Dieu. Que personne ne nous séduise. Sortons hors du camp. Comme Jésus est sorti hors du camp. Sortons hors du camp et portons notre propre. Aimons-la même. Aimons-la. Celui qui marche longtemps dans le désert, lorsqu'il arrive sous une oasis, eh bien, il bénit Dieu sans fin. L'oasis est proche, bien-aimé. C'est le moment plus que jamais d'entendre ces paroles, parce que le retour du Seigneur est tout proche. Il est tout proche. Je ne vais pas l'enseigner maintenant, mais je veux vous dire de tout mon cœur et de tout mon entendement, de toute ma vision de l'actualité en ce moment même, de ce qui se passe en particulier au Moyen-Orient, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur, il est tout proche. C'est plus le moment de rigoler. Peut-être qu'il y a quelques années, on pouvait entendre une parole comme ça, puis dire, oui, bon, ouais, ça parle, le frère, il a dit des choses qui font un peu réfléchir. Mais là, c'est le moment de descendre en nous-mêmes. C'est vraiment le moment. Le temps se fait court. Et ce sera trop tard. Il y a un jour où ce sera trop tard. C'est le moment de choisir. Et si vous choisissez, bien-aimés, vous allez être jusqu'au dernier moment ces témoins que Jésus est Seigneur. Ces témoins que c'est la vérité qu'il est Seigneur. Comme le dit le psaume 83, verset 18, et ce sera mes dernières paroles, « Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. » Que notre vie puisse incarner ce verset. Que le monde sache qu'il est le Très-Haut, qu'il est le Seigneur. Il l'est et il le sera de manière manifeste bientôt. Qu'il le manifeste ce matin dans nos cœurs, avant qu'il soit trop tard. Amen.